Bonjour Philippe Lurin.
Bonjour.
Nous vous trouvons sur les rivages du Léman et vous êtes présent parce que ce soir au cinéma Scala, il y aura l'avant-première de 16 ans, au dernier film. Alors on espère que vous aurez du public parce qu'il y a d'autres manifestations actuellement, vous le savez. On vous le souhaite, en tout cas c'est un film magnifique qui nous entraîne dans une version moderne, contemporaine de Roméo et Juliette. Quelle est la genèse de ce film ?
Ça remonte à il y a longtemps, ça remonte à une époque où je tournais un film qui s'appelait « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Et je tournais dans un lycée, et en sortant du lycée, j'allais récupérer ma voiture, et je passe devant un abribus où il y a un jeune couple qui se serre fort dans les bras et qui pleure tout le temps. Un soir, deux soirs, trois soirs, les mêmes. Et un prof me raconte qu'il y a eu un problème dans les familles, qu'ils n'ont pas le droit de se fréquenter. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le problème, mais il y a eu un gros problème. Et elle, dès que le bus arrive, elle doit rentrer chez elle. 16 ans. Ils sortent du lycée, ils sont en seconde. Et je pars avec ça et je me dis, tiens, c'est les Capulet et les Montaigu, c'est Roméo et Juliette. Et puis, je laisse le temps passer, des années, quoi. Je fais trois films. Mais ce truc ne me quitte jamais. Et je me dis, il faut que je raconte cette histoire de façon contemporaine. Je me dis aussi, Shakespeare, il n'a jamais dit pourquoi les Capulet et les Montaigu, ils s'entendaient pas. Alors moi, je sais ce qui peut se passer. Je pars d'éléments que je connais, et je travaille autour, et je me raconte. Je scénarise dans ma tête, sans l'écrire, cette histoire exactement comme elle est dans le film. Et un soir, un midi, je déjeune avec un copain qui est une pointure, qui est un cinéphile absolu, qui connaît tout le cinéma mondial, coréen, lituanien, roumain. Et je lui raconte cette idée de film. Et il me dit, c'est formidable. On se demande pourquoi personne ne l'a jamais fait. Mais je lui dis, si, bien sûr, ça a dû être fait 1000 fois. Il me dit, ben non, ça me dit rien du tout. J'ai beau chercher, pendant que tu me racontais l'histoire, je me disais, mais où est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai vu, je ne l'ai pas vu, non, jamais. Et voilà, je savais, moi, qu'il y avait eu West Side Story, mais il y a longtemps, c'était une comédie musicale. Spielberg, il l'a repris, il a fait exactement la même chose. Enfin, voilà, mais cette histoire-là, racontée de façon naturaliste, ça n'a jamais été fait, quoi. Et je suis sorti de ce resto où on déjeunait et je me suis dit, je vais le faire. Et je me suis accroché à ça. Et là, comme un chien qui ronge un os, je n'ai jamais lâché une. Voilà, tout est venu de là, quoi.
En fait, je rebondis sur vos propos pour deux éléments. Vous avez anticipé sur deux de mes questions. En fait, la genèse du film a été très longue parce que vous pensiez que ça avait déjà été fait, d'une part. Et d'autre part, vous parlez des Capulet des Montaigu. Ça, c'est Shakespeare, 1597 ou 97 pour les Suisses. Là, on est en 2020, dans le Val-de-Marne.
Ah oui.
Donc, c'est très contemporain. Oui, et a priori, ces familles ne se connaissent pas, donc elles n'ont pas de motif de se haïr.
Non, non, elles ne se détestent pas, les deux familles. C'est simplement qu'il se passe un... J'ai mis un dispositif au point, qui est un dispositif que je connaissais, en plus. Parce que, voilà, dans cette ville de banlieue, il y a le centre historique... La rue principale, qui donne d'un côté sur les logements sociaux, à un bout c'est la cité, la Croix-Blanche, à l'autre bout c'est les boucles de la Seine, et c'est les maisons d'architectes à 2 millions de pièces. Au milieu il y a le lycée, qui est un endroit où les gens se rencontrent.
Un creuset.
C'est un creuset, et puis c'est surtout un endroit qui gomme toutes les différences sociales, le lycée. Et puis, juste à la périphérie de la ville, il y a l'hypermarché, quoi, où en fait, finalement, tout le monde vient faire ses courses. Mais c'est vrai que ceux qui vivent dans la cité de la Croix-Blanche à l'autre bout, ils ont plutôt tendance à y travailler. Mmh. Alors que les autres, ils viennent plus en consommateurs. Et puis, c'est la rentrée des classes. Nora et Léo se rencontrent dans ce lycée. Et au premier regard, et j'en suis fier que... de ce qu'on a réussi à faire avec ce premier regard, voilà, comme si c'était une rencontre indispensable et obligatoire.
Et une évidence.
Une évidence. Et c'est la rentrée, donc c'est aussi la foire au vin, qui est très importante en France. et on met en place la foire au vin, et évidemment, il y a dans cette hypermarché, il y a une vitrine où on met les très grands crus qu'on ne vend jamais, c'est trop cher, mais on les expose pour donner un peu de noblesse à cette manifestation. Et il manque une bouteille. Un Château Margaux, 500 euros la bouteille. Et il se trouve que c'est le frère de Nora, qui est manutentionnaire, qui
remplit.
Tarek, qui a Chalon de la vitrine, et donc le chef de rayon le rend responsable. Il dit c'est, elle est où la bouteille quoi? Elle est où? Il l'amène devant le DRH, ça se passe mal, il s'engueule. Le directeur du magasin passe par là, les entend qui s'engueulent, il entend Tarek qui parle pas bien au chef de rayon, mais.
C'est un sanguin hein, quand même.
C'est un sanguin, il parle pas bien, puis surtout il se fait malmener quoi. Et le directeur du magasin le vire sur le champ. Il est en contrat à durée déterminée. Il ne va pas pouvoir continuer à travailler avec le chef de rayon avec qui il vient de s'insulter. Donc il le vire. Et il se trouve que ce directeur de ce magasin-là, c'est le père de Léo.
Le jeune garçon,
qui est amoureux de la sœur de Tarek.
Nora.
Voilà. Et donc, grosse dissension dans les familles, à cause du frère, qui se sent. Oui, qui a l'impression d'être victime d'une injustice.
D'un délit de faciès, déjà, quand même.
D'un petit délit de faciès au départ, mais pas que. Oui, un peu, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Ouais. C'est pas, tout n'est pas blanc ou noir. Et puis, voilà. Il se met à en vouloir au monde et surtout à sa sœur, parce que même sa sœur ne le croit pas quand il dit qu'il y est pour rien. Et donc il a décidé que sa sœur, elle allait payer. Et sa sœur, pour payer, il lui dit « je veux plus te voir avec ce garçon ». D'abord, c'est pour la punir, bêtement, mais c'est aussi parce que c'est le fils du type qui l'a viré, quoi. Il veut pas qu'elle fréquente ce garçon, quoi. Et évidemment, elle s'en fout. Mais elle s'en fout grave. Tellement que lui, il va finir par grimper, monter d'un cran et aller la balancer à son père. Qui, son père, se sent obligé, en tant que chef de famille orientale et tout, de remettre. C'est une fille, elle a 16 ans.
Elle n'a pas la famille quand même.
Elle n'a pas à aller fricoter avec un garçon, etc. Et tout part de là. Ça se met à exploser dans cette famille comme ça. Et dans l'autre famille, c'est pas mieux, en fait. Dans l'autre famille. On est très friqués, on a une très belle maison d'architecte avec une piscine et tout. Mais ce que dit le père de Léo à son fils, c'est ce que moi j'ai entendu quand j'étais môme, mais j'étais pas dans ce niveau social-là, mais quand même, j'ai entendu, il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que ceux de la Croix-Blanche. Et ça, c'est une violence terrible, en fait.
Moi, ce que j'ai ressenti à travers cette confrontation, en fait, tout part de ce vol qui est attribué. Et on découvrira plus tard qu'il n'a pas eu lieu.
Ah, on ne sait pas ça.
Oui, on ne sait pas pour l'instant. Ouais, mais en fait, Oui, voilà, je l'ai trop dit, mea culpa. Mais en fait, on découvre qu'il y a énormément de stigmatisation de part et d'autre. Il y a du mépris de la part du père de Léo, quand même.
Oui.
Et puis, de l'autre côté.
Mais il y a de la stigmatisation tout le temps. On vit dans cette stigmatisation, les uns les autres, pour tellement peu de choses. Et en fait, c'est ce que le film voudrait raconter, c'est que tout ça ne rime à rien. Et c'est la place de cette bouteille très chère, volée, soi-disant. C'est tellement absurde tout ça, quoi. Mais ça, c'est ce que le film raconte. Mais ce qu'on en retient, ce qui reste, c'est la puissance de la relation entre Nora et Léo qui fait que eux ils s'en foutent complètement de tout ça. Ils se sont rencontrés dans ce lycée qui gomme les différences. Il n'y a pas de différence. Ils sont tombés à 16 ans, l'âge de tous les possibles, l'âge exquis de la première fois, puissamment amoureux. Et on peut leur dire ce qu'on veut. Ils ne vont pas changer un iota à leur relation.
Par contre, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une culture machiste dans la banlieue. Et au départ, comme vous dites, Tarek va vouloir juste punir sa sœur. Parce qu'il se sent victimisé, en tout cas victime. Et peu à peu, il y a quand même une sorte de culture machiste qui s'étend. Il trouve des complices dans la banlieue pour surveiller sa sœur.
Mais non, il ne trouve pas de complices dans la banlieue. Il dit qu'il trouve des complices dans la banlieue. Mais en fait, le complice dans la banlieue, c'est pas du tout ses copains. C'est terrible, mais c'est la copine de Nora. Mmh. Parce que lui, il est beau comme un dieu. Et que même si
Jalousie.
La copine de Nora, qui est sa confidente et à qui elle dit tout, la copine, elle lui a pas dit qu'elle sortait avec son frère. Et que c'est elle qui balance. C'est horrible, mais c'est juste la vie, quoi.
C'est une tragédie grecque, quasiment.
Ben oui, mais il n'y a pas plus beau que la tragédie grecque.
Et par rapport au choix des comédiens, que ce soit les jeunes que vous avez trouvés, magnifiques tous les deux, et on oublie au bout d'un moment qu'il s'agit d'une fiction, et on croit qu'ils sont en fait dans la vie réelle.
Ça, c'est bien, ce que vous dites, ça me plaît beaucoup.
C'est vrai.
C'est tout ce que je leur demande.
Buvons là-dessus, parce que ça vaut la peine.
Je leur demande d'amener
l'authenticité.
La part documentaire d'eux-mêmes, on va dire. Mmh. Voilà.
Alors c'est très très authentique et c'est ça qui est vraiment à la fois troublant et on adhère à leur histoire. Et aussi les adultes, comment avez-vous trouvé tous ces comédiens? Est-ce que c'était déjà au moment de l'écriture que vous aviez, pour les adultes en tout cas, des comédiens en tête?
On va dire plutôt non. J'écris les personnages et après je trouve les acteurs qui vont se fondre dans les personnages. Mais une chose était sûre, c'est que je voulais pas de gens connus dans les cercles autour de Nora et Léo, puisque c'est eux deux les héros de l'histoire. Et il ne fallait pas qu'il y ait des petites guest stars qui viennent perturber cet héroïsme. C'est-à-dire, c'était eux les personnages centraux de cette histoire. Il ne fallait pas qu'on se sente au cinéma en voyant des têtes connues. J'en ai marre des têtes connues. J'avais envie des meilleurs acteurs du monde. Mais qu'ils aient des têtes inconnues. Alors, ils sont pas vraiment des têtes inconnues, parce que Jean-Pierre Lhorite,
Le papa Franck, voilà, le papa de Léo.
Le papa de Léo, on sait qui c'est, mais il n'est pas très connu du grand public. Mm-hmm. Pareil pour Arsène Mosca, on l'a déjà vu, mais on ne sait même pas son nom, 9 fois sur 10. Pareil pour Myriam Akédiou, qu'on a vu chez les frères Dardenne, mais voilà, mais c'est pareil, chez les frères Dardenne, on avait l'impression que c'était un vrai personnage et pas une actrice. C'est ce qu'on peut dire de mieux, un acteur. C'est, ah oui, c'est toi qui jouais là-dedans, mais je croyais que c'était un vrai prof et tout. Bah ouais, voilà. Mais moi, j'ai découvert ça avec les films, avec le cinéma anglais. Avec les Mike Lee, avec évidemment Ken Loach et tout. On se dit, à chaque fois, on regarde le film, on se dit... Qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sont allés chercher les gens dans la rue et ils les ont amenés à raconter cette histoire. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts d'aller chercher ça, des gens dans la rue et tout. Puis quand on regarde le générique, on s'aperçoit qu'ils sortent tous de la Royal Shakespeare Company. Et là, c'est ça que je voulais aussi, quoi. Donc des très très bons. Et aussi, évidemment, dans la distribution, plein de non-professionnels qui jouent leur propre rôle, quoi. Comme le président directeur général de la chaîne d'hypermarché qui vire le père de Léo est un vrai président directeur général d'une vraie grosse boîte, pas une multinationale, mais une grosse boîte. Et le DRH est un DRH d'une grosse boîte.
C'est pour ça qu'ils sont crédibles.
Mais ils sont venus se friter au texte. Et il a fallu qu'ils apprennent comme des malades ce texte-là. Et après qu'ils le déglutissent et d'un coup leur c'est ce que j'aime dans l'art dramatique, c'est que d'un coup ils redeviennent qui ils sont, mais avec des mots qui sont pas les leurs, mais qu'ils deviennent, ça devient leurs mots. Et ça, c'est super.
Philippe Huret, j'imagine que justement vous mentionnez des gens qui sont dans leur propre rôle, des comédiens, et ces deux jeunes que vous avez trouvés magnifiques, qui sont symbiotiques. J'imagine que vous travaillez différemment avec chaque comédien.
Non.
Non, même approche avec tout le monde.
Oui, c'est pareil, oui. Non, c'est pas les comédiens qui jouent, c'est les personnages. Donc les personnages, c'est tout le temps la même chose, et on est tous tendus très vite vers une seule chose, c'est l'histoire. La situation. Et donc après, il n'y a pas de savoir, je ne m'adapte pas. Si, évidemment, quand je travaille avec le petit frère de Nora, 4 ans et demi, ce n'est pas tout à fait la même approche. Mmh. Mais finalement, elle n'est pas si éloignée. Et c'est aussi ce qui fait que ce petit garçon de 4 ans et demi, il se sent très vite pris dans la troupe. Et qu'il est très à l'aise. Et grâce à ça, il est très bon. Et grâce à ça, on fait une prise, on découpe même pas. Il est d'une justesse incroyable. J'en revenais pas. Mais c'est aussi parce que on l'a mis dans cette ambiance. Et que Sabrina et ses parents et les techniciens sur le plateau le considéraient comme l'enfant de la maison. Et que c'est devenu l'enfant de la maison.
Philippe Leray, vous venez de mentionner Sabrina. Mm. Et en face d'elle, pour Léo, il y a Taïlo, je pense qu'on dit juste Taïlo, Azaïs. Vous les avez rencontrés comment pour interpréter, incarner Nora et Léo?
On a vu 80 Nora potentielles et 50 Léo. Et puis voilà, on va dire qu'elle est sortie du lot, et lui aussi. Et qu'après, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais que il y a un moment où on se dit tout le temps, peut-être je me trompe, et peut-être que quand on va arriver sur le plateau, ils n'auront pas les épaules pour endosser le premier rôle d'un film. C'est long, une heure et demie. Quand on ne les quitte pas, est-ce qu'ils vont nous intéresser pendant une heure et demie? D'où toutes ces répétitions. Et si au bout des répétitions, je m'étais dit, finalement, peut-être qu'ils ne vont pas tenir le coup, elle ou lui, ben j'aurais renoncé et je serais reparti. Mais non, là, voilà, on a bien travaillé. Et moi, c'est ma fierté. Ma fierté, c'est ces deux-là. Waouh, le film, il tient sur leurs épaules. Ils sont vraiment formidables, tous les deux. Et elle est formidable. Et en plus de ça, elle est merveilleuse. Quoi. Elle a un vrai charisme. Elle emporte le truc.
Tous les deux. Ils sont charismatiques.
Ah
et
ouais.
Nora.
Ah ouais. Et voilà. Et c'est ça, premier rôle. En fait, on ne sait jamais à quoi ça tient. Mais il y a des comédiens merveilleux qui ne seront jamais des premiers rôles et qui seront toujours, qui peuvent pas tenir un film entier sur leurs épaules. Et ben eux, ils peuvent.
Et puis, sur leurs épaules, ils portent une histoire qui est pleine de promesses et qui regarde vers l'avenir.
Et qui est universelle aussi. Mmh. Une histoire qui date de
plusieurs siècles.
Plusieurs siècles, puisque Shakespeare, il avait déjà pompé sur un autre auteur italien. Et donc, c'est une histoire qui date du XIIIe siècle et qui, je pense, au XXIIIe siècle, sera encore... sera encore d'actualité. Hein.
Et par rapport à justement ce qu'on décrivait comme milieu social... On comprend que vous disiez en début d'entretien, il y a un vivier à travers ce lycée, plusieurs milieux socio-économiques, mais en fait, en dehors, les fossés restent bien marqués.
Oui, mais à la sortie du lycée, probablement, oui, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Mais moi, je me souviens très bien, hein, puisque en fait, moi, j'ai été élève dans le lycée où j'ai tourné. Là.
Ah, vous l'avez fréquenté.
Oui, puisqu'en fait, j'ai tourné... tout dans mon bled, vu que quand j'ai commencé les repérages, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi pendant plus d'une heure et dans un rayon de plus de 5 km. Donc j'ai fait tous mes repérages dans un rayon de 5 km autour de chez moi et ça marchait très bien. Mais je me souviens très bien que c'est un autre monde. Quand on est dans le lycée et qu'on est avec ses copains et ses copines qui sont des gens issus de tous les milieux, on est proches les uns des autres et que si quelque chose change dans notre perception de la vie sociale, c'est quand on est rentré chez soi et qu'on est dans son creuset. Mais dès qu'on s'en extrait et qu'on se remet tous ensemble, c'était la grande force... évidemment de l'école publique, c'est aussi la grande force des colonies de vacances, c'est la grande force de l'armée aussi, de l'uniforme que tous les bidas ils avaient sur le dos, c'est que qu'ils soient bourgeois ou paysans,
ils étaient identiques,
quoi. Il n'y a qu'en regardant les mains qu'on voyait les différences.
Les mains qui avaient travaillé. Mmh. Et là vous mentionnez justement qu'il y avait la pandémie, donc le confinement, pour les repérages, Et est-ce que ça a retardé l'avancée du film ?
Énormément. Ouais. Ça a été que des emmerdements, cette histoire. Et puis, nous, quand on a commencé à tourner, au bout de 4 semaines de tournage, on a arrêté parce qu'on est tous tombés malades. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 3 semaines. Le film a été arrêté 3 mois. On l'a commencé en plein été, on l'a fini en plein hiver. Avec des extérieurs à faire, c'était vraiment une tannée. Mais bon, voilà, on y est arrivé. Et puis quand le film était fini, terminé, prêt à sortir, le souci a été que les salles étaient vides. Parce que déjà, elles étaient fermées. Et puis après, elles ont rouvert, mais avec des jauges, des masques et tout ça, personne n'y allait. Et puis pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de films qui se sont tournés. Après ça, il y avait beaucoup de films sur les étagères. Donc on a préféré attendre que de sortir le film. On pouvait le sortir il y a un an et demi, mais on a préféré attendre que ça s'arrange, quoi. Alors bon, ça s'est un peu arrangé, mais on a quand même la crainte que les spectateurs ne soient pas au rendez-vous parce qu'ils fréquentent plus trop les salles de cinéma. Mais quel dommage. Quand moi, j'ai fait... Là, je vous dis, j'en suis presque à 60 avant-premières. C'est énorme, hein, 60 avant-premières. Donc j'en ai vu des salles. Je vois les gens dans les salles, dans l'état dans lequel ils sortent, qu'est-ce qu'ils ont pris comme uppercut, comme échange de vie et tout. Mais jamais devant leur télé, ils vivent ça, quoi. Jamais. Jamais, jamais. J'en ai eu la preuve vivante. Donc, si j'ai un truc à leur dire, c'est allez-y, quoi. Allez-y, c'est trop bien.
Le public revient, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation. Ils ont été vraiment frustrés, pendant, que ce soit le théâtre ou le cinéma. Et j'imagine qu'il y a aussi l'échange, le partage avec le réalisateur, en l'occurrence, avec le public. Il y a un partage d'émotions. Ce soir, d'ailleurs, l'avant-première au cinéma Scala.
Non, mais je ne suis pas là à toutes les projections. Hein.
Ah.
Je suis là à toutes les projections d'avant-première. Mais après ça, le film, il va
bien vivre. Sûr.
Je ne peux pas aller dans tous les cinémas tous les soirs ou à toutes les séances. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Mais en tout cas, même si moi et les acteurs... On n'est pas là pour accompagner le film à toutes les séances, de toutes les projections de son exploitation. Je vous assure qu'on est quand même là. Je pense que le travail que j'ai fait, il transpire du film. Et eux, ils sont tellement merveilleux et on les voit... On voit qu'eux, donc ils sont là, quoi. Donc si le spectateur, il veut me rencontrer moi et qu'il veut rencontrer ces acteurs-là, c'est le film qu'il faut qu'il voit.
Donc, vous avez un petit peu le don d'ubiquité quand même, et il me semble qu'il y a trois jours...
C'est le cinéma qui donne ce don d'ubiquité.
Et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a trois jours, vous avez fêté votre anniversaire. Alors, meilleurs vœux.
Ah non, c'était le 10 octobre, mais merci parce que ça me fait
toujours
plaisir. Ah
bah alors,
plaisir.
Ça va un peu plus.
Ça me fait toujours plaisir. Quand même. Ça me fait toujours plaisir qu'on me souhaite mon anniversaire.
Bah alors, je vous souhaite votre anniversaire avec un peu de retard, je suis désolée.
Très bien,
je serai mieux la prochaine
j'ai
fois.
J'ai rajeuni de quelques mois, c'est parfait.
Merci.
Merci.
Vous voyez, c'est l'effet du film, je pense.
Voilà, très bien.
Et puis, bon succès pour ce film.
Merci.
J'imagine
merci.
Que vous avez déjà de nouvelles idées en cours.
Ouais, mais j'attends d'expulser celui-là.
Voilà, alors, bonne expulsion. En tout cas, bon succès en salle.
Ouais.
Merci Philippe Huret.
Merci.